Sur Attitude, nous allons parler littérature et nous allons parler histoire de vie, expérience de vie et histoire familiale aujourd'hui. Eva, bonjour.
Bonjour Tef.
Merci de me rejoindre pour cet entretien et nous avons le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur Attitude, Jocelyne Moferon, je ne sais pas si on prononce le E ou pas, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Jocelyne, on a le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur Attitude. Vous avez publié il y a quelques mois le livre qui raconte l'histoire de votre vie, l'histoire de votre fils malade. Le livre s'appelle « Nous étions son corps, il était notre cerveau », l'histoire de notre fils Kevin. Le livre est édité aux éditions Douro. On le retrouve évidemment dans toutes les bonnes librairies. On donnera quelques détails tout à l'heure. Écrit avec votre mari, je crois.
Oui, voilà, tous les deux, oui.
Avec Jean-Pierre qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Oui. On va parler de ce livre, de cette histoire, de votre histoire, Jocelyne. Forcément, du pourquoi vous avez souhaité écrire ce livre, on le devine, mais vous allez certainement nous donner quelques détails complémentaires. Alors, Eva a lu cet ouvrage attentivement et a préparé évidemment quelques questions. Et puis, on va échanger au fur et à mesure, tous les trois, autour de cet ouvrage et de votre histoire. Jocelyne.
Déjà, la question qui vient, c'est pourquoi ? Quel est l'objectif du livre ? Est-ce que c'est plus informer sur la maladie, raconter votre histoire dans un simple but biographique ou alors dénoncer tout ce qui se passe dans la société face à l'handicap, justement ?
Oui, c'est plus raconter notre histoire, oui, mais surtout dénoncer, crier fort, crier le combat de Kevin avec sa maladie et le combat de tous les jours, le combat avec la société, le combat d'obtenir certaines choses et de vivre. Et puis après, oui, ce que je veux, c'est crier fort ce qui s'est passé à la toute fin de Kevin.
Alors pour que tout le monde, le plus grand nombre comprenne, de quel type de maladie souffrait Kevin ?
C'était la maladie de Wernicke-Hoffmann. C'est une amyotrophie spinale, mais de type 2.
Ouais, donc c'est une maladie que l'on appelle
neuromusculaire.
Neuromusculaire, c'est voilà. Ça, absolument. Qui fait partie de ces maladies rares, qui touchent peu de personnes.
Oui, exactement. Exactement. Peut-être, on nous a souvent demandé si on était cousins, donc je pense que ça pourrait peut-être venir de... On n'a pas vraiment cherché voir le lien de parenté, mais apparemment, bon, on est tous les deux porteurs du gène de la maladie, donc il aurait pu effectivement prendre... un mauvais gène à moi et un bon à mon mari, il aurait été comme nous, mais bon, malheureusement, il a pris les deux mauvais gènes et la maladie, il a eu la maladie, quoi.
Et voilà. Cette maladie, alors Kevin nous a quittés il y a déjà quelques années, beaucoup trop tôt, évidemment.
Oui.
De quelle manière cette maladie s'est développée ?
Alors, la maladie s'est développée, bon, normalement, c'est une maladie qui se développe à 4 mois et demi, mais nous, on s'en est rendu compte à 10 mois. Donc Kevin avait du mal à se tenir, enfin bon, il se tenait pas debout, mais dans le trotteur par exemple, bon, quand il s'avançait, il avait du mal à se remonter. Et puis là, bon, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose, donc on est allé chez le pédiatre. Et le pédiatre, bien sûr, il a pas su ce que c'était, mais il a dit, bon, je sais pas, mais je suis inquiet. Et à partir de là, bon, on est allé à Limoges. Et là, forcément, on nous a dit l'horreur. Votre fils passera pas 18 mois. C'est une maladie, c'est la myotrophie spinale, mais de type 1. Donc, il passera pas 18 mois. Donc là, bon, je vous dis pas la suite. Après,
absolument.
C'est terrible, quoi.
Et pour contextualiser, nous étions à quelle période ? Enfin, quelle année ?
91. Avril 91. Et donc après, un mois après, ça a été très rapide. On est allé à Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Et là, on a dit, ben non, c'est pas le type 1, c'est le type 2. Donc Kevin vivra. Il n'y a pas de limite d'âge. Il vivra comme tout le monde. Alors bon, après, suivant la maladie. Mais bon, voilà, à Limoges, il s'était trompé.
Et vous dites dans le livre, vivre comme s'il n'y avait pas d'handicap, vous le répétez plusieurs fois, c'est très important pour vous.
Oui.
Pourquoi est-ce que justement c'est si important de le répéter, de le souligner et de vivre sans ce handicap ?
Parce que bah déjà, mon mari est handicapé, donc voilà, donc deux fauteuils à la maison, mon fils handicapé. Et donc, bah, moi dans ma tête, c'était faire vivre Kevin comme tout le monde. Malheureusement, bon, on voyait bien qu'on ne pouvait pas vivre comme tout le monde, mais c'était d'avancer, de pas faire de différence en fait. On parlait jamais de sa maladie devant Kevin, on était vraiment, on faisait comme s'il pouvait tout faire, sauf qu'il pouvait pas, mais on faisait comme si. Pour nous, côtoyer des gens en fauteuil, c'était naturel.
Donc le livre, forcément, c'est un hommage à Kevin, mais pour qui d'autre est-ce qu'il est pour vous ? Est-ce que c'est une façon de faire le deuil ? Est-ce qu'il est pour les autres ?
Faire le deuil, non, parce que je pense que d'un enfant, on fait pas le deuil.
Oui, le deuil se fait jamais. C'est...
Ouais. Non, moi, le but, c'est de crier fort ce que les gens ne savent pas, crier fort ce qui se passe dans les maisons, dans la société, pour crier fort ce qu'on vit au quotidien, tous les jours, un combat. Quand on est handicapé, ben, c'est un combat pour tout. Enfin, pas pour tout, hein. La scolarité, ça a été super. Et de crier fort ce qu'on lui a fait vivre à la fin, oui.
On en parlera certainement tout à l'heure, mais oui. Kevin n'est pas mort de sa maladie, ou peut-être indirectement de certaines causes, mais c'est surtout une erreur médicale.
Oui, c'est une erreur.
Entre guillemets, je ne suis pas spécialiste, mais...
Non, on était suivis à Garches, donc dans tous les hôpitaux, c'est pas pareil. Hein. On était suivis à Garches, tout se passait bien, et on allait de temps en temps sur l'hôpital à Angoulême. On était en pédiatrie où tout se passait bien. Et quand Kevin a été adulte, ben, on n'a pas pu continuer en pédiatrie, donc on est allé au service adulte. Donc en 2010, déjà, en service pneumologie, ça a été, ça a été un peu compliqué. Mm-hmm. Il y a une infirmière qui s'était trompée d'antibiotiques de chambre en chambre. Enfin bon, mais comme on était toujours là, donc on a tout vu, tout entendu. Suite à ça, on avait fait un protocole. Tout devait bien se passer, et malheureusement, quand on est revenu en 2012, ça a été la catastrophe, quoi, en fait. Ils nous ont pas écoutés, le protocole, il y en avait plus, c'était tout égaré. Kevin a eu du mal à se faire perfuser, parce que bon, il faisait des chutes d'hypo, donc il fallait perfuser. Parce qu'à 0,30, déjà, on était rentré et il tombait il aurait pu être dans le coma, donc il avait peur d'être dans le coma, donc. Et donc, sauf que là, ils ont perfusé quand même, hein, sous la menace un peu de Kevin. Et puis après, ils ont envoyé le médicament, le diable, quoi, qu'il fallait pas. Dans la nuit, le médecin, il a ordonné de mettre un médicament sans voir Kevin, sans venir le consulter, sans rien. Il a mis un médicament et Kevin, à la suite de ça, est fait indésirable. Et puis, ça a été un enchaînement de médicaments sur médicaments. C'est pour ça que je crie fort ce qui s'est passé et que pense tout. Alors, ils disent pour se défendre que Kevin est rentré en fin de vie, mais pas du tout. Le 11, Kevin, il avait une bonne prise de sang et le 15... les transaminases étaient à 8000 et quelques. Ça se voit pas, les transaminases. Le foie explosait à 8000, donc ouais. C'est terrible. Voilà. Et eux, ils ont juste vu la constipation. Kevin avait pris 6 kilos d'œdème, ils s'en sont pas rendus compte. Il n'avait pas uriné de 24 heures, ils s'en sont pas rendus compte. Et puis bon, je peux vous raconter la fin, mais...
On va peut-être revenir au livre et ensuite parler plus de l'hôpital et tout ça.
Je vais partir un peu.
Il nous a donc quitté en 2012, ça fait 10 ans. Presque,
il y a eu 10 ans.
10 ans, presque 11 ans. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire le livre? Est-ce que c'était après les funérailles, après la mort, des années après, enfin peut-être 5 ans?
Non, j'ai écrit aussitôt en fait. J'ai commencé à écrire aussitôt, je me suis un peu réfugiée dans l'écriture, dans les photos, dans les montages, et j'ai beaucoup écrit. Jusqu'en 2015, il y a eu une déception à un moment où je présente les prises de sang à Kevin et qu'on me dit non, la prise de sang du 11, on l'a plus. On n'a plus que celle du 15. Donc là, surprise, parce que moi je l'ai en papier et eux ne l'avaient plus informatiquement. Donc alors là...
Donc ça, c'était durant le processus...
En 2015, oui. Donc là, j'ai décoré, quoi. J'ai arrêté, j'ai tout arrêté. J'ai dit, on est dans quoi? On est dans cette société. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible de dire, on l'a plus. Moi, je l'ai dans les mains. Je la présente, on ne l'a plus. Donc à un moment, là j'ai arrêté d'écrire. J'ai dit, j'arriverai jamais à rien. C'est dégoûté, quoi, vraiment dégoûté.
Vous avez fait une pause dans l'écriture,
ouais,
et vous avez repris ensuite...
Et après, j'ai dit un moment après, alors je ne dirais pas combien de temps après, hein, mais peut-être un an après. Hein. J'ai dit non, je peux pas. J'ai repris à écrire. J'ai dit, il faut que ça se sache. Il faut encore plus. En fait, ça m'a boosté un petit peu plus en disant, ben oui, ça continue. Il faut que je continue. Il faut que je dévoile plein de choses.
Vous avez été aidée de votre mari pour l'écrire. Est-ce que vous avez été aidée aussi d'un écrivain, d'un biographe peut-être?
Alors une biographe qui m'a aidée en fait, parce que pour mettre les choses en place, parce que j'avais beaucoup écrit, mais oui. Tout en désordre bien sûr. Et puis bon, quand c'est pas son métier, c'est pas facile à mettre en place. Une biographe. Alors mon mari m'a aidée, pas vraiment à écrire. Il est un petit peu différent de moi, je dirais, parce que il serait moins exprimé que moi en fait. Et puis bon.
Oui, vous dites dans le livre que entre vos deux caractères, vous êtes plus émotionnel, plus sous le coup. Lui, il est plus posé. C'était un peu la tête froide.
La différence, oui.
Du couple. Donc le livre est disponible dans les librairies. On le rappelle, il est sorti le 1er février. Est-ce que depuis, il y a des familles avec une expérience similaire qui sont venues à votre rencontre, peut-être pour vous remercier, pour échanger?
Alors. Oui, elles sont venues, je dirais que oui. Beaucoup sur les réseaux, en fait. Beaucoup, j'ai eu plein de messages en me remerciant que j'avais beaucoup de courage. Et puis, par la même occasion, les personnes profitent. Enfin, profitent, c'est pas un profit. Ils parlent de leur famille, ils parlent de leurs problèmes, de leur enfant, enfin, qu'ils ont perdu leur enfant, et me font des petits messages à travers mon livre, quoi, en disant...
Vous les aidez à s'exprimer ?
Pas vraiment, mais bon, parce qu'on peut pas non plus écrire.
Oui.
Mais j'ai l'impression que ça leur fait du bien de parler de leurs problèmes, de leurs enfants, et elles reviennent. Et même justement, il y a une personne qui est venue carrément chez moi. Donc je me dis, c'est au moins c'est utile.
Oui, et de se sentir compris, sans doute, pour ces familles-là.
Voilà, exactement.
De se dire, on n'est pas les seuls à avoir vécu ça ou à vivre ça. Et quelque part, c'est une expérience aussi que vous leur transmettez d'une autre manière.
Exactement. Et même du groupe Amyotrophie Spinale, en fait, chez Famille, qui est revenu vers moi.
Aujourd'hui, donc là, vous êtes à la radio. Si des personnes qui sont dans la même situation que vous, donc des parents endeuillés ou des personnes avec quelqu'un avec un handicap dans leur famille, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Comment gérer la maladie au quotidien?
C'est pas facile de parler pour d'autres personnes pour gérer la maladie. Moi, je peux que leur conseiller, dire vivre au maximum, faites au maximum ce que vous pouvez faire, des moyens que vous avez. Profitez de tout et restez pas enfermés, quoi. Sortez, bougez, allez à la rencontre d'autres personnes. Nous, la rencontre d'autres personnes, sortir, ça nous a apporté. Et on aimait le monde. Moi, c'est ça que je conseillerais, aller vers le monde. On a toujours adoré le monde. On était toujours entourés. Quand Kevin est parti, ça a été un vide. Mais quand Kevin était là, nous, c'est ce qui nous a sauvés, quelque part. Mon mari, déjà avec son handicap, il avait beaucoup de monde autour de lui. Après Kevin, on avait beaucoup de monde autour de nous. Et après, et aujourd'hui, ça a été le vide. Et c'est vrai que on aime le monde. Peut-être plus que le monde nous a aimés au moment de la perte de Kevin.
Bien sûr.
Et voilà. Vous dites dans le livre que Kevin était très jovial. Il aimait les gens, il aimait participer dans la vie, dans la discussion, dans tout. Et par la force des choses, vous avez fini par participer au Téléthon, enfin par être bénéficiaire du Téléthon. Et également la FM, donc par conséquent, est-ce que vous êtes senti soutenu par ces organismes?
Jusqu'à 22 ans, enfin 20 ans, quelque part, on a été soutenu. C'est un grand mot parce qu'en fait, nous, on était partant, on était toujours avec notre fils, on faisait. Après 2012, on a été soutenu jusqu'en 2015. Et après, non. On nous a complètement lâchés, mais d'une drôle de façon.
Oui.
Une drôle de façon.
Dans le livre, vous parlez donc de ces thèmes-là, donc tout ce qui est le parcours médical, la FM, le Téléthon, et évidemment vous parlez du décès de Kevin, comment ça s'est passé à l'hôpital d'Angoulême, et donc vous soupçonnez, on soupçonne, enfin ce qui s'est passé c'est une erreur médicale, et vous avez intenté un procès à l'hôpital et aux personnes concernées. Alors, on va pas parler de la procédure aujourd'hui, mais moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que le livre porte atteinte à votre personne, à votre crédibilité en tant que... Enfin, pendant, dans le procès, est-ce que ça peut vous desservir ou pas?
Oui, complètement. En fait, un peu mon livre, comme je dis, c'est mon arme. Quoi qu'il se passe, le procès, moi, j'ai toutes les preuves dans mon livre. J'ai tous les certificats. Donc, pour moi, c'est ma force en disant... j'ai le certificat comme quoi qu'il fallait pas intuber Kevin, qu'il était non intubable. J'ai le certificat comme quoi que Kevin n'était pas anorexique, parce qu'ils ont soupçonné ça. Donc son poids, sa taille était correctement, même bien, il avait même pris du poids. Donc j'ai le certificat de l'hôpital de Garches où Kevin était suivi. Donc tout ça, je me dis, mais on peut pas être insensible à ça. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait à l'hôpital, à Angoulême, fallait pas faire. Ce qu'ils ont fait.
Oui, et le livre est composé de photos, de moments de vie, oui. De très, très beaux moments de vie, et également de certificats médicaux et d'ordonnances qui montrent justement tout ça.
Exactement. J'ai toutes les preuves. Donc, j'ai toutes les preuves.
Le procès, il est à titre symbolique, vous attendez rien du procès, mais, et donc le livre, c'est vraiment, donc vous le dites, votre arme.
Oui.
Est-ce que c'est le livre vraiment plus le livre que le procès qui compte?
Pour moi, le procès pourrait compter à la fin de dire « j'ai raison, ils ont tort ». Pour moi, le livre est presque plus important.
C'est pas ce que pense la justice, mais c'est ce que pensent les gens.
Alors, c'est aussi pour dire, faire comprendre aux gens, parce que beaucoup ont pensé que Kevin était parti de sa maladie.
Oui.
Beaucoup ont pensé que j'étais traumatisée, vu ce que je racontais, vu comment j'expliquais comment ça s'est passé, la fin de Kevin, on me dit c'est impossible qu'il se passe ça à l'hôpital. Sauf que nous, on était présents 24 heures sur 24, on a tout vu, tout entendu. Et mon livre, en fait, j'essaie de crier, dire oui, je dis la vérité. Il s'est passé ça à l'hôpital, en fait. Et c'est pour ça que mon livre, pour que les gens puissent me croire, que ces gens-là
de l'hôpital... pour figer cette vérité, quelque part.
Voilà, exactement. Pour que ces gens-là n'aient pas toujours raison, en fait. Parce qu'on les a subis pendant 22 ans. Mon mari avant aussi, grâce au même hôpital. Mon mari a été amputé assez haut, grâce à eux, parce qu'ils ne faisaient rien et qu'envoyés à Bordeaux. Donc c'est pour vraiment crier fort de dire, c'est l'hôpital qui a fait tout ça, qui fait ses erreurs, et ça continue, et ça continue. Donc c'est pour ça que je veux crier, dire, stop, arrêtez.
Et à l'inverse, sur une note un peu plus positive, on va dire, l'éducation nationale, vous le dites dans le livre, a été remarquablement exceptionnelle. Pour avoir lu le livre, donc c'était incroyable. Enfin, les moyens mis en place,
oui,
compréhension des personnes concernées. Et aujourd'hui, on le voit dans les classes spécialisées, il y a beaucoup plus de discrimination. Les enfants sont plus cruels. Comment vous expliquez ce changement?
Pas plus cruel. Moi, je crois pas. En fait, ça. Moi, je vois Kevin. On est allé tout petit. Enfin, donc à l'école primaire à Tapona. Le directeur a toujours tout fait ce qu'il pouvait faire. Il a mis une rampe pour Kevin. J'étais accueillie avec Kevin. J'étais dans la classe. J'écrivais à côté de Kevin. Enfin, j'ai toujours été accueillie. Ils ont été vraiment super. J'ai jamais surpris un enfant se moquer de Kevin.
Non, pas dans le livre, non, mais
jamais.
Aujourd'hui, plus à l'heure actuelle.
Moi, je crois pas. Un enfant, ça reste un enfant. Ouais. C'est naturel, un enfant. Après, ça dépend du handicap. Kevin, il avait ses deux bras, ses deux jambes. Il n'avait pas... et vous savez, des enfants, même s'il y en a un qui louche, on va se foutre de lui. Que là, Kevin, j'ai jamais surpris un enfant. Même il y en a qui jalousaient Kevin en disant « t'as une super voiture », enfin tout ça. Bon, ça fait plaisir. Et Kevin a toujours été... il parlait, il réagissait. Donc il a toujours été très... Il se défendait avec son fauteuil. Si quelque chose lui me rappelle une fois, il avait mis un coup de fauteuil à un gamin en disant, moi je sais pas ce qu'il a peut-être dit une bêtise, il lui avait mis un coup de fauteuil. Bon, l'autre, il a été un peu surpris, quoi. Mais non, moi je crois pas. Moi je crois pas que un enfant, ça reste un enfant.
Donc Kevin a eu son bac mention très bien, le bac scientifique, et l'éducation nationale était d'une grande aide, et notamment pour les cours, les professeurs. Comment est-ce que ça s'organisait, l'emploi du temps avec les soins à la maison?
Alors, l'organisation, en fait, ça a été la professeure de maths, Anne-Marie, qui a géré, en fait, tous les professeurs qui venaient à la maison avec, bien sûr, le directeur et la sous-directrice à l'époque, et le rectorat à Poitiers aussi, en fait. Les professeurs venaient à la maison, chacun leur tour, chacun leur jour, et donc ça s'est passé comme ça. Et donc après, quand Kevin a passé son bac, là il y a eu une grosse grosse organisation. Ça a été un moment merveilleux avec le lycée qui a tout fait, il a passé son bac en même temps que l'Amérique du Sud, hein, avec le Chili, et avec le décalage horaire, en fait, Kevin a ouvert le sujet à 13h30, donc Angoulême, et là-bas, c'était à 8h le matin, en fait. Et donc là, ça a été vraiment une organisation et des gens formidables, ça a été vraiment super, quoi.
Donc il a fait les cours à la maison, mais il a aussi été en présentiel dans les établissements scolaires, et vous étiez toujours avec lui.
Alors en primaire, j'étais avec lui au début. Après, il y avait une aide, une AVS qui venait, qui était avec Kevin. Après au collège aussi, sauf qu'après il a pas terminé le collège, on l'a fait à la maison. Et mais après, quand les AVS n'étaient pas là, moi j'étais accueillie comme le sous-directeur à La Rochefoucauld. Il m'avait dit vous venez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Donc c'était vraiment et donc au lycée, après, ça a été les cours complètement à la maison. Bon, Kevin est allé un petit peu, mais c'était un petit peu plus compliqué, et puis déjà il y avait la distance, enfin bon, c'était un petit peu plus compliqué.
Oui, parce qu'il était à Marguerite de Valois.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Kevin, vous le dites dans le livre, a bénéficié d'un chien d'assistance, Newton, il s'appelait. Ils avaient tous les deux une relation particulière, presque en symbiose, c'est ce que vous dites. Alors, comment est-ce qu'il a pu aider Kevin dans les tâches journalières?
Alors au début, c'était fallait qu'ils s'habituent tous les deux, fallait qu'ils familiarisent tous les deux. Nous, l'important, ça a été quand Kevin était dehors ou avec Newton, il pouvait faire aboyer Newton en disant il y a un problème, il faut venir. Après, pour lui ramasser les objets. Ça a été vraiment un super moment et un grand moment pour Kevin avec le chien, et puis un compagnon où Kevin pouvait le commander, lui donner des ordres, et Newton exécuter en fait tout ce que Kevin lui disait. Et donc ça a été vraiment un grand moment. Bon, il est parti en 2009, et là où Kevin, où je dis qu'il a eu ses dernières larmes quand Newton est parti. Mais enfin bon, ça a été vraiment un compagnon, un fidèle compagnon, quoi. Ça a été un grand moment.
Et pour l'avoir, vous avez donc participé à un stage pour savoir les connexions entre les chiens et différents participants. Ça s'est fait directement, c'est ce que vous dites, entre Kevin et...
Oui. Ça, au début, il a essayé 3 chiens. Et donc après, il a fait ses vœux et il avait choisi Newton. Et donc les éducateurs ont fait aussi... ils ont vu ce qui se passait avec les chiens, la personne et puis les chiens, et en fait ils lui ont attribué Newton, donc ça a été vraiment le chien qui voulait et qui écoutait, enfin qui lui correspondait le mieux, quoi, parce que bon, il y avait des chiens plus nerveux, plus et donc Newton, voilà, ça a été vraiment un super moment avec alors il y a eu Newton, puis il y avait 2 chiens avant, et Kevin adorait les animaux et nous aussi, et ça a été
et après après le décès de Newton, vous dites qu'il n'a pas voulu d'autres chiens.
Non, il était prioritaire. Il aurait pu en avoir un tout de suite. Enfin, tout de suite, fallait qu'il repasse quelques temps encore avec le chien. Kevin a dit, un chien comme ça, ça ne se remplace pas. Donc après, il n'en a pas voulu, mais peut-être qu'à un moment, il aurait pu en reprendre un. Mais bon, voilà, on ne saura pas. Kevin aurait été très fier qu'un livre lui soit dédié, consacré.
Le livre est donc sorti depuis quelques mois, il est disponible pour tout le monde. Je te laisse rappeler le titre, Eva.
Nous étions son corps, il était notre cerveau, l'histoire de Kevin, notre fils.
On le trouve notamment ici à Angoulême, à la librairie Cosmopolite, hein, chez Pascal Dulondel, très facilement, sur commande. Je sais qu'à La Rochefoucauld, il est également disponible.
Oui.
Barbezieux, Centre culturel Leclerc. Et puis
Leclerc à La Rochefoucauld aussi.
Leclerc à La Rochefoucauld, évidemment. Et puis dans toutes les bonnes adresses, en donnant la référence, évidemment, aux éditions Douro.
Donc le livre est absolument magnifique. C'est une histoire hors du commun qu'il faut absolument lire. Ça nous fait grandir, ça nous fait réaliser des choses et c'est magnifique.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à tous.
Merci Jocelyne de votre témoignage. Merci à vous.